C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
On va tout de suite aller retrouver Stéphane White. Bonsoir Stéphane.
Salut mon ami, comment ça va?
Ça va très bien Steph. Il restera pas grand-chose rendu à vendredi sur le marché des transactions. Je pense que le gros nom c'est Jake Gunzel, mais les autres ça part les uns après les autres là.
Bon, les gros poissons sortent tous et puis il va rester rien que des menés pour vendredi. Là.
Ça ressemble à ça. Dans les transactions qui sont déjà faites et dont on n'a même pas tous les détails encore, comme par exemple la NFL là, avec Vegas, ouais. On n'a pas encore le prix que ça coûte à Vegas. Mais de ce que tu as vu aujourd'hui et ces derniers jours, Manta hier et compagnie, puis même en incluant les précédentes, Lindholm, quelle est l'équipe la plus améliorée à la suite d'une transaction ces dernières heures ou derniers jours?
Mais il y a quelques minutes, je t'aurais dit Colorado, mais là, avec Hanifin qui s'en va à Vegas, avec une défensive déjà très, très bien nantie à Vegas, l'ajout d'Anthony Manta comme joueur de profondeur hier, un gros ailier qui peut marquer des buts. Écoute, là, Vegas, il shake la cabane là, en ce moment. Là.
Pas à peu
donc,
près.
Pas à peu près. Et puis, ça met beaucoup de pression sur beaucoup d'équipes parce que à deux jours, aujourd'hui, là, quelle journée aujourd'hui, 6 transactions des quasiment majeures. Et puis, ça, comme je viens de dire, ça met beaucoup de pression sur beaucoup d'équipes. En ce moment, là, dans mon livre, il y a 12 équipes qui peuvent aspirer à la Coupe Stanley. 12 équipes, et là-dedans, il y en a 8 qui ont déjà bougé depuis le début de la période des échanges.
Oh boy!
Donc, tu vas dire, numéro 1 au classement, la Floride, on est allé chercher Tarasenko. Numéro 2 au classement général, ils sont allés chercher Lindholm il y a quelques semaines. Numéro 4 au classement général, Dallas, sont allés chercher Tanev. Au cinquième rang, j'ai Alex Wenberg, que les Rangers sont allés chercher aujourd'hui. Au sixième rang du classement général, Winnipeg avec Sean Monahan. Au septième rang, Mario, Colorado, avec Sean Walker aujourd'hui et Casey Middlestadt.
Oui.
Au huitième rang, Edmonton sont allés chercher Adam Henrik. Et au douzième rang, Vegas sont allés chercher Manta et Hanifin. Donc ça laisse... Là, j'ai hâte de voir dans les prochaines heures ou les prochains deux jours... Ceux qui n'ont pas bougé. Ça, c'est Boston et Caroline, Toronto, Los Angeles. Ça, c'est ceux qui... Tout ça, ça complète le top 12 avec ceux que j'ai nommés, ceux qui ont bougé aujourd'hui. Donc ça met de la pression sur ces équipes-là. Donc, ça s'annonce spectaculaire les deux prochaines journées. Et puis, écoute, Colorado et... Vegas, écoute, en ce moment, ont pris une grosse avance sur bien des équipes.
Fait que du gros trafic dans l'Ouest, bon, Edmonton, c'est moins spectaculaire, mais tu sais, des fois, puis même, il y a la vieille expression qui dit que les meilleures transactions sont celles qu'on ne fait pas. Souvent, on a constaté au fil des ans que la Coupe cette année ne se gagne pas à la date limite des transactions. Fait qu'il y a des noms qui sèment beaucoup d'espoir, mais là, reste l'intrigue de le gars va-tu entrer dans le mix, ça va-tu bien s'arriver avec l'équipe, Stéphane? Il n'y a pas de garantie par rapport à ça, là.
Non, il n'y a aucune garantie, ça c'est certain. Il y a des joueurs qui peuvent arriver qui brisent la chimie totalement. On l'a vu l'année passée que les Rangers, on pensait, ils disent tabarnouche. Eux autres, là, ils viennent de faire la grosse affaire à la période des transactions quand ils sont allés chercher Tarasenko et Patrick Kane. Et puis la chimie n'a jamais pris, le gâteau n'a jamais levé. Donc, c'est des risques, c'est des gros risques. Et tu parles d'Edmonton, oui, c'est pas des gros noms, mais c'est quand même Adam Henrik.
Oui.
Qui a quand même beaucoup d'expérience, qui va fitter là comme troisième centre. Ça amène une grosse profondeur. Pas au centre, je veux dire, à l'aile, mais il peut jouer au centre. Ça amène beaucoup de profondeur sur un troisième trio à Edmonton. Et Sam Carrick, qui va être un très, très bon quatrième centre à Edmonton. Donc ça, c'est tu gagnes avec la profondeur dans les séries. Et ça, je l'ai vécu deux fois avec les Blackhawks. À un moment donné, une année, on est allé chercher John Madden, qui avait gagné deux Coupes Stanley avec les Devils. Et ça, c'était le vétéran qui nous avait tellement aidé sur une quatrième ligne avec les Blackhawks. S'il avait fait une grosse différence. Donc, c'est le genre de joueur que beaucoup d'équipes recherche à ce temps-ci de l'année.
Alors, une journée excitante à ce chapitre-là en termes de transactions. Et puis, je suis bien embêté, moi aussi, tu sais, Vegas, j'analyse ça, Colorado. Walker, je t'avoue que je le connais moins. Tu penses-tu, bon, Middlestat ou Walker, si tu compares ça aux deux acquisitions, Manta, Anifin, Vegas, Colorado. Là. Mettons, mets ces deux transactions-là des deux bords, t'es confrontes, ces deux clubs-là s'affrontent. C'est-tu, tu sais, on va le voir, mais s'ils s'affrontent, d'ailleurs, on a une bonne idée qui a fait les meilleures transactions, ouais. Mais en théorie, là, sur papier, c'est embêtant. Hein?
C'est embêtant, mais j'aime Sean Walker. C'est un défenseur un petit peu très complet. Je pense que Noah Hannifin est le meilleur défenseur overall. Pour ce qui est des deux attaquants, Casey Middlestat, il y a toute une saison. Je pense qu'il est plus régulier et a en général une meilleure saison qu'Anthony Manta. Donc, ça s'équivaut comme acquisition. Colorado, qui en plus ont réussi à se débarrasser de Ryan Johansson, qui était un boulet pour eux autres. Ça, c'est un bon coup de par Colorado. Et la preuve, écoute, Philadelphie, tout ce qu'ils veulent faire, c'est encaisser son salaire pour la fin de la saison et récolter des choix parce qu'ils l'ont déjà mis sur le haut ballottage. La grosse perte pour Colorado, c'est un jeune défenseur, Bowen Byram. 22 ans seulement. Donc, c'est à un moment donné, si tu vas avoir quelque chose, faut que tu donnes. Mais ça, j'ai aimé ça, cette transaction-là. C'est rare, cette transaction-là, Mario, de nos jours. Ça, c'est une transaction hockey.
Mais c'est comme New Hook. Tu sais, quand ils nous ont envoyé New Hook, là, tu sais, c'était un autre jeune. T'sais, eux autres, ils veulent gagner maintenant. Mais vas-y, oui, c'est une transaction hockey, en effet. Oui. Les deux gars,
hockey, c'est... Hockey, dans le sens, oui. C'est deux joueurs de hockey qu'on s'est échangés. Il n'y a pas de choix de repêchage. Il n'y a pas d'échange de salaire. Il n'y a pas, on garde temps, on garde ça. C'est une des rares transactions qu'on voit de nos jours seulement hockey.
Oui, et dans le cas de Byram, Jean-Sébastien me faisait remarquer à juste titre, Jean-Sébastien Amal à la recherche ce soir avec moi, qu'il n'a pas joué une saison complète à date en carrière. Fait que je sais pas si on l'échange avant qu'il se blesse. Tu sais, des fois, il veut pas une équipe quand t'évalues un joueur comme Dak éventuellement. Tu sais, s'il devait, puis je veux pas être prophète de malheur, là, on espère que c'est fini blessure pour lui. Mais s'il devait subir une autre blessure sérieuse l'an prochain, maintenant, tu sais, avant de te commettre pour, tu sais, tu te poses des questions, t'es d'accord, non?
Ah oh oui, oui, exactement. C'est une très bonne observation. C'est un drapeau rouge en entour de lui, comme un drapeau rouge qu'on a sur Kirby Dak, parce que c'est des gars qui ont rarement joué une saison complète à cause des blessures. Et c'est le même drapeau rouge qu'on a pour j'ai un blanc de mémoire, le joueur, le défenseur.
Bowen Byram.
Le choix qu'on a obtenu à Philadelphie, le défenseur qu'on a eu d'Anaheim. Et puis, donc, c'est le même genre
Drysdale?
De joueur. Drysdale, ce qui est exactement. C'est le même genre de drapeau rouge. C'est un gars qui n'a jamais joué une saison complète, qui est tout le temps hypothéqué par des blessures. Ça, c'est des risques qu'on prend.
Effectivement. Bon, retour un peu sur le Canadien qui affrontera les Hurricanes en Caroline. Bon, au moment où les points ne comptent pas tellement, il reste que, en tout cas, une façon de résumer le résultat des trois derniers matchs. C'est 4 points sur une possibilité de 6. Victoire hier, le match a flippé en 6 secondes, littéralement, Stéphane. Mais, bon, ça a peut-être pris ça pour que le Canadien se sente dans le match. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire-là contre les Prédateurs?
Il n'y a pas un joueur que j'ai pas aimé. Honnêtement, il n'y a pas un joueur que j'ai pas aimé. Oui, Harvey Pinard, c'était difficile, mais il faut le comprendre. Il revient d'une blessure. Jesse Ilonen, qui est encore invisible, là. Je regarde sa fiche en ce moment, là, sur la feuille des statistiques. C'est 0-0-0-0-0-0-0-0-0. Et, il y a un 2. Un 2, c'est, une mise en échec. OK, au moins, il s'est présenté, il y a eu une mise en échec, donc c'est la preuve que quand même qu'il était quand même manageable hier soir. Mais à part de ça, les joueurs travaillent fort. J'aime l'engagement des joueurs. J'aime l'émotion des joueurs. Tout un voyage. Écoute, 4 points sur 6 à date contre la Floride, Tampa Bay, Nashville qui venait en remporter 8. Tout un voyage pour le Canadien. Et encore une fois, il n'y a rien de surprenant là, dans le sens que le Canadien a le tour de nous surprendre. Et souvent, quand des équipes plus faciles, ils ont le tour de nous décevoir. Et là, en ce moment, mais il nous surprend encore plus. Sauf que lorsque je mets un petit bémol, c'est que ils jouent comme une équipe qui a rien à perdre.
Aha! Des matchs de fin de saison, puis ils ont rien à perdre.
Exactement. Les gars ont du fun. Ils ont du fun. Ils ont rien à perdre. Gagne ou perd, ça n'a pas d'incidence. Et puis, c'est des équipes qui sont dangereuses pour les équipes qui, eux autres, ont tout à gagner et ils se doivent de gagner le plus de matchs possible.
Je suis tout à fait d'accord. Fait qu'il faut pas non plus, bien qu'on voit des signes encourageants, vois-tu quand même, sans ni jovialiste, sans ni négatif, là, en étant le plus neutre et objectif possible, vois-tu les bases d'une bonne équipe pour partir la saison prochaine?
Non, pas tout à fait, honnêtement. On a un très bon premier trio. Après ça, c'est tout suspect. On a eu des bons sports hier de Gallagher, de Newark, même Anderson, on l'a vu hier. Armia qui joue du bon hockey de ce temps-ci, mais il reste que c'est des gars qui des gars de support. Des gars qui, en principe, sur des bonnes équipes, bon, vous, c'est des troisième lignes. J'ai aimé Joshua Roy encore une fois, 14 minutes de jeu. Il a été très bon. Quel but, quel lancé.
Mais
il nous montre tous les aspects de son talent au niveau. C'est un gars qui peut marquer des buts, puis c'est un gars qui est un très bon passeur. Écoute, ça, c'est encourageant. Sur le côté moins beau, les trois buts qu'on a donnés, Mario, encore une fois, c'est des mauvaises couvertures défensives. Encore une fois, c'est des trois buts, c'est vraiment là, des erreurs de structure, de mauvaises couvertures défensives. Et visiblement, même si on travaille fort, on a une belle émotion, il reste que tactiquement, ce problème-là est loin d'être réglé et j'ai hâte de voir l'année prochaine si on va persister à vouloir jouer ce fameux système de jeu-là qui est homme à homme et que s'il y en a un des cinq sur la glace, il cherche son joueur. Mais ça, c'est cool.
C'est que tu payes le prix aussitôt qu'il y en a un qui manque sa couverture. Tu peux pas te rabattre sur ta défensive de zone.
À partir de là, tout le monde essaye de tricher. Tout le monde va dire « OK, il faut que je répare l'erreur de mon chum, mais il en crée un autre en libérant un autre joueur. » C'est très difficile à jouer.
Et tu avais sûrement le but d'O'Reilly en tête quand tu pensais à hier, quand il s'est retrouvé tout seul. C'est bien ça, O'Reilly en troisième qui se retrouve tout seul face à Allen.
Oui, les trois buts quand O'Reilly est sorti de derrière le filet.
Oui.
Ça, c'est un but que j'ai pas aimé de Jake.
Moi non plus. Il était trop creux,
surtout pas patient. C'est mis trop vite sur la glace au lieu d'être un peu plus patient et se jeter en papillon au bon moment en étant en square. Donc ça, pour moi, c'est pas un but que j'ai aimé, mais il reste que les trois autres buts ont eu des erreurs défensives, des erreurs de couverture flagrantes. Donc ça, là, c'est un problème qu'on n'a pas amélioré encore depuis le début de la saison.
Non, en effet, d'autre part, dans les éléments positifs, là, je fais un peu de coq à l'âne, mais je sais pas d'où est partie la rumeur. Ben, tu sais que il y a une rumeur il y a une semaine et demie concernant Ketchuk qui peut peut-être être mécontent à Ottawa. Et puis, parce que bon, son père travaille dans l'organisation des Blues, proche des gars du Spittin' Chicklets podcast, etc. Mais là, il y en a qui sont partis à Montréal avec une rumeur que Ketchuk, Slafkovski, il y en a qui feraient ça demain matin. Moi, il y a des gens qui m'ont posé la question hier en tribune téléphonique et j'ai répondu sans même réfléchir, jamais dans 100 ans, juste pour le fun de la discussion. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens, mais ça peut en avoir, remarque, si t'es prêt à le faire, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Est-ce que tu jases ou tu raccroche Ketchuk, Slafkovski, un contre un.
Si Ottawa t'appelle pour faire ça, c'est parce qu'il y a un red flag avec Ketchuk. Ça, c'est la première des choses. Si le gars, il n'a rien à se reprocher, c'est un bon coéquipier, c'est un bon gars dans la chambre, c'est un bon leader, mais Ottawa, ils ont zéro raison de vouloir faire ça. Zéro raison. Et puis, en partant, c'est drapeau rouge, si Ottawa appelle pour ça.
Oui.
Puis deuxièmement, je suis d'accord avec toi. Je pense que Slafkovski va devenir un meilleur joueur de hockey overall. Différent de Ketchuk. Ketchuk, c'est plus un gars qui dérange, qui bat dans le filet, les mâchoires vont se faire aller, tout en étant un très bon joueur de hockey, ça, il n'y a aucun doute. Mais à 19 ans, Slafkovski, encore une fois, très, très, très impressionnant. À son âge, la plupart des joueurs jouent junior à son âge.
Ah non, t'as raison, puis j'abonde totalement dans le même sens que toi, puis c'est pour ça que j'ai dit jamais dans 100 ans. Je pense que Slavkovski peut devenir, en général, un meilleur joueur, mais du même souffle, j'ajoute que, puis c'est ça qui est fâchant, parce que le nom de Tkachuk arrête pas de revenir tout le temps dans l'actualité, c'est que c'est un gars qu'on avait dans notre cours, qu'on avait juste à repêcher. Alors l'idée de sacrifier ton autre gars d'avenir pour aller réparer une gaffe du passé, moi j'embarque pas là-dedans. C'est fou de garde, on l'a manqué, mais m'a dire une affaire, j'y prendrai deux dans mon club. T'imagines-tu, toi?
Exactement, hey, là où je voulais en venir. Je prendrais les deux demain matin. Aucun doute là-dessus.
À toutes les fois qu'on s'imagine un scénario où il est ici, alors qu'il y en a... Là, on a arrêté de se faire rabattre les oreilles avec Kotkaniemi. Là, aussitôt qu'il faisait deux points au début de saison, le monde pensait que c'était redevenu la merveille qu'il avait anticipée. Mais bref, mais wow, c'est ça. On aurait déjà un méchant club, mais on n'aurait peut-être pas eu Slavkovski si on avait eu Tkachuk parce qu'on n'aurait pas fini dans la cave.
Ah, si bol, toi, tu vois le positif dans tout. Et vous savez l'histoire, là, quand on avait repêché, j'étais là avec le Canadien à l'époque, quand on avait repêché Kotkaniemi, il y avait une unique raison, la raison pourquoi que c'était lui qu'on voulait, parce que on voulait absolument un centre. Peu importe les autres joueurs qui étaient disponibles, on voulait un centre. De là, mon raisonnement qui dit, quand tu repêches dans les 10 premiers au premier round, tu prends le meilleur point final.
Et tu sais-tu quoi, tu vas peut-être me trouver un peu sévère envers les décideurs de hockey, mais tu sais, t'es pas obligé d'avoir joué dans la Ligue nationale pour être un DG, pour pas prendre un gars qui est aussi évident à prendre que ça. Faire des gaffes de même qui coûtent à ton organisation pendant tant d'années, là, tu sais, c'est... Il y a bien du monde qui aurait fait des meilleurs jobs que des DG en place dans bien des villes à faire des gaffes épouvantables de même. Moi, j'en reviens pas encore. Bref.
Oui, mais à quelque part, le DG, il est souvent influencé par bien du monde en autour de lui. Et puis, ça reste un choix d'équipe, mais il reste que j'ai tout le temps cru que au repêchage premier round, les 10 meilleurs, tu prends le meilleur, les 10 premiers choix, tu prends le meilleur joueur disponible, peu importe la position.
Hey, j'aurais tellement aimé ça être dans ces discussions-là. Là. J'espère que quelqu'un demande. Anyway, c'est du vieux stock, mais qu'est-ce que tu veux, ça vient me chercher quand on parle de Tkachuk. Ben Stéphane, un gros merci. On va voir si ça continue de débouler côté transaction. Et je te reparle très bientôt, puisque je quitte pour un petit congé à partir de demain. Et merci pour ta superbe contribution à l'émission et à nos excellents résultats, comme tous les membres de l'équipe, Stéphane. On est tellement contents et chanceux de t'avoir avec nous autres.
Ben, merci. Bon repos, mon Mario. On s'en reparle très prochainement.
Yes, sir. Merci, Steph. Bye-bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est le moment, vous le savez, avec la musique qui annonce son arrivée, d'accueillir Antoine Roussel. Salut Antoine.
Salut Mario, comment vas-tu?
Ça va très très bien mon ami, ça va très bien, ça déboule, il y a de l'actualité, on a des bons résultats de sondage également, puis t'en fais partie, fait que je te remercie, on est chanceux de t'avoir, comme je le disais à Stéphane, c'est avec une équipe de qualité qu'on peut aspirer à gagner des championnats, mais transaction, ça déboule Antoine, vraiment vite, hein?
C'est pour être maudit, ils nous attendent pas. On fait des choses spéciaux pour la date limite des transactions, puis ils font tout avant. Le timing n'est pas parfait aujourd'hui.
Ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir mes vacances à partir de demain. Avec les années, tu apprends ce que c'est la date limite des transactions. Surtout avec le Canadien qui est pas un gros joueur non plus dans tous les scénarios qu'on peut tenter d'identifier, à moins d'une énorme surprise. Là, sait-on jamais, je touche du bois. Est-ce que pour toi, il y a une équipe, je vais te poser la même question qu'à Stéphane tout à l'heure, considères-tu que dans tout ce qui a été fait à date, qu'il y a une équipe qui est plus améliorée que les autres?
Écoute, j'aime beaucoup l'amélioration qu'ont fait les Oilers d'Edmonton. Pour moi, ils se sont donné l'opportunité d'avoir un choix d'un joueur de centre probable. Je sais pas, en fait, c'est difficile de savoir où est-ce qu'ils vont l'intégrer exactement. Mais pour moi, Adam Henrik serait parfait en troisième centre. Il donnerait beaucoup de profondeur et il appuierait vraiment la deuxième partie de l'alignement à l'attaque du côté des Oilers. J'aime l'ajout de Carrick aussi. Tu peux pas tout te payer, faut que tu fasses des choix. Puis ils en ont profité pour aller chercher deux joueurs. Puis j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était un bon coup de maître, je dirais.
L'Avalanche, Colorado et Vegas sont deux des équipes qui ont été les plus actives, qui ont acquis des joueurs également qui sont pas arrivés là pour être des figurants là. Donc deux transactions intéressantes, Manta Anifin dans le cas de Vegas, Middlestat et Sean Walker au Colorado. Il y a un vainqueur, là, tu penses?
Ben, en fait, l'autre vainqueur, j'aime beaucoup ce que le Colorado aussi a fait. Je trouve que mais, si j'étais dans cette division, je regarderais ça d'un œil vraiment jaloux. Parce que, exemple, je suis les Stars de Dallas. Je regarde ce que ce Colorado a fait. Ils sont allés chercher Casey Middlestat, un bon jeune joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver. Ils ont donné un bon jeune joueur aussi en Bourne Byram. Mais je trouve qu'ils avaient cet espace-là que Ryan Johansson n'a pas su combler cette année. On lui a donné une opportunité, il l'a pas saisi. Et le perdant dans tout ça, c'est Ryan Johansson parce que il s'en va à Philadelphie sous John Tortorella alors qu'il aurait pu avoir une opportunité de jouer pour la Coupe cette année. Donc des fois, quand tu saisis pas ta chance, ben, là tu te retrouves de l'autre côté et c'est là que tu te dis plus tard, j'aurais dû forcer un petit peu plus.
Mais Johansson, là, il a pas déjà joué lui pour Torts à Columbus où il était parti?
Oui. Oui, il a joué 34 matchs.
Ouais, c'est ça. Mais Todd Richards, Torts a succédé à Todd Richards à Columbus ou c'est le contraire? C'est Richards qui a succédé à Torts? Oh,
c'est le. Là, je n'ai pas une aussi bonne mémoire.
C'est Torts.
Je blâme les coups à la tête.
Non, mais c'est, écoute, c'est parce qu'on pensait tout haut en direct à la radio. Fait que, excuse-moi, non, je ne m'attendais pas à ce que tu aies la réponse de même. Mais effectivement, donc, Torts est venu en relève. Fait qu'il l'a coaché, Johansson. Tu penses-tu qu'un gars qui a déjà joué pour Torts, il est content de le retrouver une couple d'années plus tard?
Ben, seulement si tu l'as aimé.
Ouais.
Parce que si tu le sais que tu l'as, c'était pas ton préféré. Bien évidemment, c'est pas idéal, mais ça me ferait de la peine de quitter une organisation comme celle de Colorado de l'Avalanche qui s'est améliorée aujourd'hui avec Sean Walker, Casey Middlestat notamment. C'est quand même une belle amélioration. Et puis, c'est des joueurs qu'on risque d'avoir pendant encore plusieurs années. Et je pense à Casey Middlestat notamment, qui t'amène cette profondeur-là. Puis, c'est un petit peu ça qu'on en a discuté un petit peu plus tôt cette saison, toi et moi, Mario. On parlait de qu'est-ce que le Canadien pourrait aller chercher du côté de Buffalo. Ben, finalement, c'était Casey Middlestat. On parlait de Quinn à un moment donné, toi et moi. Puis, finalement, ben c'est lui qui était disponible. Puis c'est un petit peu dans la même lignée que Quinn Hughes regarde ces joueurs-là. Quand il va aller chercher des bons jeunes joueurs, ben c'est des Casey Middlestat. Maintenant, le Canadien non plus n'avait pas un Bowen Byram à donner.
Non.
Donc, ceci explique cela. Mais quand même, c'est le genre de jeunes joueurs attaquants que le Canadien pourrait soutirer à des bonnes jeunes équipes qui ont tellement de jeunes joueurs qui sont plus capables de tous les garder et profiter justement de des équipes qui collectent les choix repêchage, les hauts choix repêchage pendant plusieurs années et qui n'arrivent pas à bâtir une équipe gagnante, mais qui quand même ont des bons joueurs. Buffalo en fait partie.
Un gars qui fait pas partie des transactions, mais ça me fait penser à lui parce que j'analyse la formation de Colorado. Qu'est-ce que tu as pensé de la mise sous contrat de Zach Parisé en janvier? Puis on dirait qu'il est en train de se dégourdir tranquillement. Là, on le voit souvent à la feuille de pointage dans les derniers matchs. Il y a juste 4 buts, 3 passes, 7 points en 14 matchs, mais on dirait qu'après une couple de matchs, il s'est mis à fonctionner. Il est sur le deuxième trio. Est-ce que c'est un signe de faiblesse de l'Avalanche de devoir faire appel à un Zach Parisé qui, lui, est rendu à 39 ans ou tu penses que ça a été intelligent comme acquisition? Puis ça va peut-être être un des éléments qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout.
Ben moi je trouve que c'est un élément intelligent. Puis quand on va chercher un joueur de la sorte, on va chercher tout ce qu'il y a autour de ce joueur-là. Donc un Zach Parisé, ça t'apporte beaucoup de leadership, de direction aussi. Puis je trouve que c'est ça qui a été bénéfique. Quand Andrew Cogliano, quand ils ont gagné la coupe, les échos de vestiaire qu'on a entendu par la suite, c'est que la veille du match butoir où ils ont gagné la Coupe cette année, Cogliano avait appelé un meeting d'équipe et à ce moment-là, justement, ils s'étaient parlé dans le blanc des yeux avec les joueurs, puis ça s'était rallié en arrière de ça, du moins c'est ce que j'ai entendu. Donc, c'est le genre de joueur qui peut partager son expérience. Puis Zach Parisé, ben moi, quand je vois un joueur qui bourlingue comme ça, qui continue à s'accrocher, il y a 39 ans, c'est inspirant aussi pour les jeunes joueurs de l'équipe, parce que lui aussi veut avoir sa chance de gagner la Coupe cette année. Donc, l'avoir dans l'alignement ou autour de l'équipe, c'est vraiment bénéfique. Puis c'est sûr que ça prend toujours un certain temps avant de s'adapter. Mais j'aime vraiment ce que le Colorado a fait cet après-midi, du moins dans le dernier mois, en essayant d'améliorer son équipe, parce que c'est quand même un gros joueur qui fait 12,6 millions par année. Donc, faut que tu sois quand même assez créatif pour faire de la place dans ton alignement à des joueurs qui sont encore bons. Mais c'est là l'avantage quand tu as des jeunes joueurs dominants et une bonne équipe qui t'attire ces joueurs qui veulent extensionner leur carrière, qui sont encore bons. Ils sont corrects, mais plus. Et ils veulent jouer pour toi. Donc, c'est une bonne situation pour eux.
Là, j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de rumeurs concernant Jake Gonsol, parce que là, les gros pistolets sont de plus en plus rares. Ça a bougé énormément dans l'Ouest. C'est excitant quand même. Ça donne une bonne idée des grosses pointures qui vont s'affronter dans l'Ouest. Puis j'aime ton analyse d'Henrique, parce que c'est peut-être pas le nom le plus flashé là, de tous ceux qui ont changé d'équipe aujourd'hui. Mais toi, t'as joué contre ces gars-là. Fait que j'adore ton input quand tu nous dis que c'est la première transaction que t'as identifiée, Antoine, là.
Moi, j'aime vraiment cette transaction-là, parce que les Oilers, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe en tant que telle. Ils sont des bons joueurs. Ce qui leur manque peut-être, c'est la petite touche offensive du côté du troisième ou du quatrième trio. Quand tu vas chercher un gars comme Henrik, tu n'as pas le choix de lui donner du temps de glace. Tu donnes pas ce que tu as donné pour Anaheim, aux Ducks, pour obtenir ces joueurs-là si tu les fais pas jouer. Bien sûr, tu vas avoir McDavid puis Dwight Hightower qui vont consommer qui vont absorber beaucoup de minutes. Mais quand tu vas chercher des joueurs comme ça, des vétérans, faut aussi que tu leur donnes l'opportunité de bien performer. Donc, ça va donner de la vie aussi à leur troisième trio, peut-être au quatrième trio aussi. Donc, c'est ça que cette équipe-là a besoin. Et moi, je vois ça d'un très bon œil. Ils veulent chercher une bonne expérience puis une belle profondeur. Et ça, c'est la clé du succès en série.
Demande spéciale d'une fidèle auditrice du 98.5 qui voulait revivre quelques belles émotions liées au match d'hier. Puis moi, il y a deux séquences qui m'ont fait faire spontanément « wow ». Et wow encore, c'est les deux séquences dont tu vas entendre la description à l'instant.
Rondelle ratée par la passe, par Novak, c'est Roy qui cueille le disque. Tiré court! Joshua Roy! Quel lancé! Il a surpris Saros et c'est 3-3.
Quel boulet!
Sur un revirement. Nous sommes en prolongation. Fin d'avantage numérique, 4-4. Caulfield attaque encore. Revient dans l'enclave, la passe vraiment, il court! Nick Suzuki! Vient de donner la victoire.
Martin a failli manquer de gaz. C'est Suzuki, je pense toujours aux motocyclettes, mais c'est drôle, ça ajoute à l'émotion du moment. Mais deux méchants beaux buts, Antoine. C'est le fun de voir des beaux buts. Là. C'est beau des buts déviés puis qui rebondissent tout le monde. Mais ça, c'était des beaux buts. Parle-moi de ton appréciation de Joshua Roy.
J'adore Joshua Roy. Je trouve que c'est un bon jeune joueur créatif. Puis ça, c'est ce que le Canadien a besoin. Le genre de joueur capable, quand il sera encore plus expérimenté à ce niveau-là, sera capable de tirer son niveau de jeu vers le haut. Puis moi, quand je le vois jouer puis tirer de la sorte, ça m'impressionne. Puis c'est quelque chose que lui a fait à tous les niveaux. Donc en soi, c'est pas impressionnant, mais il a été capable de le faire à tous les niveaux. Et il s'est adapté, il l'a fait un petit peu dans la Ligue américaine, puis maintenant on lui donne sa chance de performer. Il y a des soirs où on le voit plus, des soirs où on le voit un petit peu moins, mais à chaque opportunité, souvent il crée un petit peu de magie. Il y a toujours, même si des soirées où c'est moins bon, il va avoir une étincelle qui va se passer, puis tu vas dire, il est capable de faire ça. Donc pour moi, c'est un joueur créatif que le Canadien a bien besoin. Quand on cite des joueurs comme à l'extérieur, on parlait de Casey Middlestat, des bons jeunes joueurs, Joshua Roy, pour moi, il fait partie des meilleurs jeunes joueurs du Canadien.
Est-ce que je te nomme un consultant spécial de Kent Hughes qui te demande, Antoine, je te laisse la décision entre les mains, y a-tu quelque chose à apprendre en retournant à Laval, même en série?
Je pense que oui. Je pense que quand tu joues en série éliminatoire, tu vas chercher de l'expérience, c'est du millage, c'est encore du hockey professionnel, c'est du hockey à la place que tout le monde arrête de jouer, toi tu continues de jouer, tu t'améliores et tu plantes les pieds à la bonne place. Et quand tu fais du millage en séries éliminatoires, tu fais une première ronde, une deuxième, peut-être même une troisième ronde, ben l'équipe d'organisation du Canadien regarde, puis c'est là qu'elle tombe encore plus en amour avec toi et ils te font une place garantie au camp d'entraînement pour la saison suivante. Donc c'est important de pas prendre ça pour acquis, puis d'aller chercher le maximum d'expérience. Puis tu sais, si t'as la chance de gagner une coupe dans la Ligue américaine, ben c'est une coupe de plus à ton pédigré.
Ah, j'adore ton opinion. Et Antoine, juste pour préciser le tir, t'attends-tu à la fin de la saison régulière du Canadien ou Beto? Parce que ça se peut qu'il rate les séries, le Rocket aussi, là.
Ben ça, c'est sûr que j'attends vraiment la fin de la saison, parce que le millage qu'on donne à ces jeunes joueurs-là, j'aime ça. Mais tu sais, comme par exemple, ils vont en avoir d'autres, des jeunes joueurs comme des Lane Hudson. Ben, tu sais, j'aimerais ça les voir dans la Ligue américaine d'abord. Tu sais, le monde va me dire, hey, non, Antoine, t'as tort. Mais moi, je trouve que c'est des fois, je comprends qu'on veut les tester, on veut voir à quoi ils ressemblent, mais c'est important de prendre faire les choses de la bonne manière et d'y aller par étapes. Puis, je trouve que des fois, de brûler les étapes, c'est pas nécessairement la bonne fonction, la façon de faire.
J'aime ton opinion. Toi, tes enfants sont pas en âge de relâche encore, Antoine. Là, on est en pleine semaine de relâche.
On est en pleine semaine de relâche et ça brasse à la maison. Là, je fais des signes. Là. Taisez-vous. Mais écoute, ça a pas l'air de m'écouter dans
votre. Mais non, mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est de la vie. Mais c'est drôle parce que là, moi, je te vois, pour avoir été dans la même situation que toi ou avec les années des collègues, c'est que tout ce qu'on s'imagine qu'on ne voit pas des simagrées que quelqu'un peut faire quand t'es en onde. Comment ils s'appellent tes garçons, Antoine? Vous en avez deux, hein? Deux ou trois? Trois.
J'ai trois enfants. J'ai deux garçons, une fille. J'ai Théodore, Raphaël et Léonard. Puis c'est trois petits joueurs de hockey qui travaillent fort puis qui bougent leur, comme je dis souvent, leur money maker.
Ta fille s'appelle comment?
Raphaël.
Raphaël, Théodore, puis l'autre, je l'ai échappé, pardon.
Léonard.
Léonard, ah, c'est des bons noms. Fait qu'il y a de l'action. Puis ta fille aussi est dans le hockey?
Oui, absolument. C'est ma meilleure patineuse.
Ah, c'est extraordinaire. Ben, en tout cas, hein, les enfants, faut que ça vive, faut que ça bouge. Fait que fais-toi-en pas, Antoine. On est capable de vivre avec quelques-uns d'enfants pendant une conversation. Mais merci bien gros, mon ami, d'avoir été là ce soir. Puis une bonne fin de soirée. Puis salut à toute la famille Rooster.
Ça me fait plaisir. Bonne soirée tout le monde. Salut Mario.
Salut Antoine. Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Alors, vous l'avez vu, ça commence à débouler pas mal au chapitre des transactions. Une des transactions qui a retenu notre attention au cours des dernières heures, elle a été réalisée hier, celle qui amène Anthony Manta avec les Golden Knights de Vegas. Et qui de mieux que l'adjoint de Bruce Cassidy là-bas, Dominique Ducharme, l'ancien coach du Canadien de Montréal, pour nous parler de cette transaction et de l'allure de la saison des Golden Knights. Salut Dominique!
Salut Mario, ça va bien?
Ça va très très bien. Vous autres, là, il vous manque même pas mal d'attaquants, là, plusieurs gars qui ont composé avec des blessures. Fait que j'imagine que vous cherchiez, je sais pas ce que vous cherchiez, mais en tout cas, vous avez trouvé Anthony Manta.
Bon, oui, puis écoute, tu viens de le dire, là, avec Eichel a joué au dernier match, là, mais il manquait cinq attaquants, puis cinq attaquants quand même de qualité, là, surtout quand tu inclus Eichel et Stone. Donc, l'arrivée d'Anthony, je pense que pour nous, là, c'est pas juste rajouter un joueur, c'est rajouter un joueur important là, à ce moment-ci de l'année, parce que on a vraiment là, des besoins à l'attaque. Maintenant, on va voir ce qui va arriver d'ici à vendredi encore. C'est pas mon travail à moi, mais connaissant comment les Golden Knights travaillent, ils cherchent toujours à améliorer l'équipe. Donc, on va voir si on va faire d'autres transactions, mais on est content de l'avoir avec nous, Anthony, parce que c'est un gars qui cadre bien dans notre équipe. C'est un gars qui va être bien entouré aussi. On a des bons joueurs de centre. Ça va être une bonne chose pour nous de son arrivée.
Est-ce que tu as appris la transaction quand elle a été réalisée ou on t'a demandé ton input? Je sais pas, c'était quoi ton degré de connaissance là, à propos d'Anthony Manta qui jouait dans l'Est quand même avant?
Moi, Calais m'avait posé la question, étant donné que c'est un gars du Québec. J'ai coaché beaucoup contre lui quand il était junior. Mais tu sais, ça fait quelques temps déjà qu'il m'avait demandé ça. Et puis, non, c'est ça. J'ai jamais eu l'occasion de travailler avec. J'ai jamais... que ce soit que Hockey Canada, il était tout le temps un petit peu avant que moi, j'y allais. Donc, j'ai jamais eu dans mon équipe, mais tu sais, ça me fait plaisir de travailler avec un jeu comme ça. Beaucoup de potentiel, du talent, puis certain qu'il va bien cadrer avec notre groupe.
Bon, parlant de votre groupe, vous aviez un bon coussin, mais veux pas, dans la Ligue, quand tu as plusieurs blessés, comme vous l'avez vécu, là, c'est difficile de traverser ça sans écoper un petit peu au classement. Puis quand on regarde vos performances dans la dernière séquence, il y a eu quand même seulement deux victoires là, depuis votre match contre le Minnesota ou depuis votre victoire contre les Coyotes le 8 février. Fait que il y a un lien direct entre ce dont on parlait en début d'entrevue, Dominique, et votre fiche récente?
Bon, écoute, oui et non, c'est certain que ça aide pas. Par contre, on était vraiment en dents de scie. Tu sais, quand tu te retrouves dans une situation comme celle-là, que tu sois capable de tu peux pas avoir de baisse durant le match. Okay? Quand tu as tout ton groupe, tu peux, surtout ce groupe-ci, tu sais, des fois, tu peux avoir tout le temps des hauts et des bas dans un match. Mais en ce moment, là, ce qui est arrivé, là, surtout dans les derniers matchs, c'est nos bas étaient trop creux. T'sais. Puis ça nous a vraiment fait mal. On a vraiment payé cher à nos 5 minutes, 10 minutes, des fois qu'on n'est pas au top de notre match. Puis c'est surtout là-dessus là, qu'on veut se concentrer. C'est des choses qu'on est capable de contrôler. Par contre, c'est un groupe qui est fier. Puis je pense que ça, on va rebondir. On va rebondir. Puis ça fait partie aussi d'une longue saison dans la Ligue nationale. Autant les blessures, les hauts, les bas. Mais maintenant, c'est le reste d'un match. Il faut vraiment arriver et emmener notre jeu à un autre niveau. Là.
Ça doit être difficile aussi. Là. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'équipes. En tout cas, il y a quelques équipes dans la Ligue qui doivent le vivre. Quand ta place en série semble, puis je touche du bois pour vous autres, là, semble à toute fin utile, assuré. Vous avez un bon club, vous êtes les champions à titre. Je sais pas si inconsciemment, il n'y a pas le désir de reprendre son souffle avant d'amorcer le dernier droit, Dominique.
C'est un des pièges, tu sais. Puis en plus, quand tu étais champion comme l'équipe a été l'année passée, tu sais, ça fait des défis qui sont différents. T'as une chute là, dans ton dos en étant le champion défendant. Et puis, toutes les équipes arrivent, viennent jouer contre nous. Ils sont prêts. Fait que, c'est quelque chose là, qui, autant par rapport à ce que tu dis, le coussin qu'on avait, autant aussi le fait d'être champion. Ça apporte d'autres défis. Il faut maintenant faire notre tour à réagir. Mais comme j'en parlais tantôt, on a un bon groupe. Ils sont conscients de la situation. Tranquillement, nos joueurs vont venir. Et puis, on fait l'acquisition d'Anthony. Donc, tu sais, il y a des bonnes choses qui arrivent pour nous. Maintenant, c'est pour vraiment tourner la page et amener ça à un autre niveau.
Sentez-vous que vous avez d'autres besoins, même si c'est pas dans ta cour à toi, mais dans la cour de McCrimmon, votre directeur général, là, sens-tu que les Golden Knights pourraient être encore acheteurs, là, ou cherchent encore quelque chose sur le marché d'ici vendredi?
Ben, de dire qu'ils cherchent, je serais pas surpris, là, quand tu vas au courant de tout, mais c'est certain que je pense que c'est le travail de tous les directeurs généraux dans la Ligue de rester à l'affût jusqu'à vendredi, que tu sois acheteur ou que tu vendes. Je pense que ça va tout le temps jusqu'à la dernière minute. Il faut tout le temps que tu regardes une façon soit pour améliorer ton équipe maintenant ou ceux qui vendent, ben, c'est améliorer l'équipe dans le futur. Donc, je suis certain qu'on a déjà vu fonctionner au cours des années les Golden Knights. Ils n'ont pas peur de tirer sa gâchette. Donc, je suis certain qu'ils continuent. Qui continue à chercher.
Non, en effet, ils ont eu la gâchette assez active depuis leur arrivée dans la Ligue, ce qui fait qu'ils sont toujours dans l'actualité. Je reviens à Anthony brièvement. Est-ce qu'il y a des chances qu'il joue avec Nicolas Roy, peut-être même un William Carrier quand il sera de retour, mais certainement avec un centre comme Nicolas?
Oui, écoute, c'est possible. Mais tu sais, quand tu arrives avec dans une situation comme ça, tu fais des acquisitions, puis des joueurs reviennent, faut que tu achètes différentes combinaisons, puis des fois, ça prend plusieurs essais avant de voir qui clique avec qui. Donc, c'est peut-être une possibilité en cours de route de voir ça. Mais je pense que là, il est trop tôt. Puis aussi, il faut voir jusqu'à vendredi déjà aussi qu'est-ce qui va se passer. C'est souvent, là, avant qu'il puisse trouver les bonnes combinaisons, il y a des essais à faire. Puis éventuellement, peut-être que ça va être quelque chose qui va arriver.
Est-ce qu'il y a un joueur qui, à travers les épreuves que vous vivez, de perdre des morceaux importants comme Stone Weichel qui vient de revenir, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont impressionné, que tu connaissais de loin avec les Golden Knights, Dominique, depuis que tu es arrivé là?
Ben moi, tu sais, il y a deux joueurs là, qui même trois joueurs, tu sais, Marchessault, c'est un compétiteur. Tu sais, je savais que c'est un bon joueur de hockey, mais il y a une raison pourquoi tu sais, tu regardes son parcours, puis comment ça s'est passé, puis tu vois que c'est un battant, c'est un gars qui est compétitif. C'est pas juste un marqueur de but. C'est un gars qui est très compétitif. Jack Eichel, en le regardant à l'extérieur, puis ce que je vois à l'intérieur, c'est vraiment un professionnel extraordinaire. C'est un gars qui travaille tellement fort sur son jeu, sur les détails de son jeu. Quelqu'un qui est réceptif, qui veut toujours s'améliorer. Puis ça, c'est la façon qu'il s'entraîne, la façon qu'il reçoit les messages. C'est vraiment impressionnant. Puis l'autre, c'est William Carson. Probablement l'attaquant le plus sous-estimé dans la ligue, je dirais.
À ce point-là?
Tellement bon, les deux. Ah oui. Tellement bon défensivement. Je pense que il devrait être en nomination, selon moi, pour le trophée de Selke. On parle de Patrice Bergeron qui a pris sa retraite. Je pense qu'un gars comme lui, Pedersen à Vancouver et compagnie, mais Carlson est dans le mix pour moi parmi les meilleurs. Il est capable d'avoir un impact des deux côtés. Puis, à rajouter à ça, quand on parlait d'Aikon, tant qu'à moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup amélioré sa défensive, puis qui de la façon qu'il patine, puis de la façon qu'il défend pourrait être aussi en nomination pour le Celtic. Fait que, ces joueurs-là sont spéciaux.
Comment tu trouves ton année à retourner dans un rôle d'assistant, de conseiller, d'adjoint à Bruce Cassidy avec une équipe qui vient de gagner la Coupe cette année? Quelle est l'appréciation de ton expérience puis de travailler avec Bruce, Dominique?
Ouais, j'adore. Pour moi, le plus important, c'est continuer à avancer comme coach à progresser, continuer à prendre l'expérience, à vivre différentes situations. Fait qu'ici, ben, c'est de vivre une situation où que l'équipe est champion défendant, donc ça amène d'autres genres de circonstances, de défis, une autre façon de gérer le côté mental aussi. La courte été qui fait que les joueurs, il y a un peu de fatigue aussi à travers ça.
Oui.
Donc tout ça mis ensemble, puis travailler avec les Blues, avec John Stevens, dans le fond, deux des adjoints, moi et John, on a déjà été entraîneur-chef dans le national. Et puis un jeune coach comme Joel Ward, puis retrouver Sean Burke qui était à Montréal. Donc, c'est
une belle gang.
C'est une belle gang qui, en même temps, ça me permet de voir d'autres choses, continuer à avancer comme entraîneur.
Ben, très certainement. Écoute, ça fait plusieurs bonnes têtes de hockey, là, réunies à la même table à souper quand c'est le temps de jaser du match perdu ou gagné la veille ou celui du lendemain. Puis en terminant, Dominique, permets-moi, parce que bon, Vegas, c'est une ville unique. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la plupart des joueurs qui jouent là, mais toi, t'as un regard nouveau sur cette ville-là comme homme de hockey parce que t'as même pas encore une année derrière la cravate avec les Golden Knights. C'est quoi faire du hockey à Vegas?
Ah, écoute, c'est... Pour moi, c'est tellement une belle expérience, autant professionnelle que personnelle, de vivre sur la côte ouest, de vivre à Vegas. L'équipe est très populaire. Les gens, là, les locaux, sont vraiment ont beaucoup de sport pour notre équipe. C'est une équipe qui est née ici. C'est pas une équipe qui a déménagé. Donc,
malgré l'arrivée de la NFL, NFL, là, tu sens que les Knights ont une emprise à la ville.
Ah oui, oui. Mais tu sais, la différence, c'est que les Raiders, c'est que ils sont allés à Los Angeles, à Oakland, ils ont fait quelques allers-retours comme ça. Ils sont certainement populaires ici, mais tu sens moins le sentiment d'appartenance. De sentir que l'équipe est née ici, tu le vois avec notre équipe de hockey. T'sais. Je dirais que l'équipe numéro un à Vegas, c'est les Golden Knights. C'est vraiment spécial. Mais en même temps, d'avoir cette popularité-là pour l'équipe dans une région comme ça, que beaucoup de monde doutait au début.
Oui.
Par contre, la même chose, je peux sortir avec ma femme puis aller au restaurant ou au bar ou quelque chose, aller prendre un verre. Puis il n'y a pas personne qui va me reconnaître. L'autre jour, je voyais... Vous voyez, Jack, Michael, on était dans un casino, puis on était allé manger, puis Jack est passé avec sa blonde, puis il n'y a pas personne pas besoin qu'il le reconnaissait, qu'il le dérangeait. Donc,
le meilleur des deux mondes.
C'est quand même... Ouais, c'est ça. C'est... Donc, il est quand même différent qu'à Montréal. Donc, c'est un train de vie qui est vraiment différent.
Ben, j'imagine que ça doit être tout, ça tranche avec ce que tu as vécu auparavant, nécessairement, voilà. Avec le Canadien Dominique. Ben, écoute, merci d'avoir pris du temps pour nous. Bonne fin de saison. On vous a à l'œil, les Knights de Vegas, et puis, je suis convaincu que vous allez replacer ça, puis j'ai hâte de voir, vous allez bouger d'ici vendredi. Mais bonne fin de soirée, Dominique. Un gros merci.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
Alors, déjà de retour en Caroline, cette fois avec Danny Dubé. Bien le bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Alors, avant de commenter les transactions là, qui continuent de débouler aujourd'hui, Joshua Roy, tu t'es déjà prononcé, là, dès son premier appel, tu avais affirmé que tu souhaitais qu'il poursuive la saison avec le Canadien de Montréal. Donc, j'imagine que rendu là, tu dois pas avoir changé d'idée, mais peut-être je te la repose la question.
Non. Ben, c'est pour te ramener dans le temps, la deuxième fois qu'il a été rappelé, quand j'ai vu jouer, j'ai dit, là, s'il redescend en bas, je pense pas qu'il va apprendre grand-chose. Il est rendu au point où il peut contribuer de façon régulière dans la Ligue nationale. Je souhaite, personnellement, si on me le demande, là, tu sais, parce que c'est un peu ça l'idée.
Oui.
Tu sais, des fois, l'organisation, on sait pas, ils ont un plan différent, ils ont une vision différente. Leur situation aussi avec les contrats, tout ça. Mais là, moi, je fais fi de tout ça. Je regarde le joueur, je dis, lui, c'est important qu'il demeure à Montréal et qu'il devienne un contributeur. Parce que c'est un joueur qui a un potentiel quand même assez intéressant sur le plan offensif. Il reste des choses à travailler pour son énergie, son niveau d'engagement, le temps qu'il n'y a pas la rondelle, comment il s'implique. Il y a encore des choses à améliorer, mais tu vois que c'est un joueur intelligent. Il a déjà fait de grands pas si on compare avec son premier camp d'entraînement, sa première présence dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui est beaucoup plus complet. Moi, j'aime son intelligence au jeu. Il découpe bien la glace. Et c'est très rare que tu le vois complètement hors position. Très rare que tu le vois faire une erreur grossière qui va placer ses coéquipiers dans la barre. Donc ça, c'est des qualités pour moi déjà qui sont très importantes parce que malgré son talent offensif, il démontre une certaine sobriété dans sa prise de décision.
Et ça séduit toujours bien des entraîneurs qui développent un lien de confiance avec l'attaquant. Mais parlant d'attaquant, Danny, pour faire suite à des discussions qu'on a eues récemment, dont hier, et parler du besoin de l'équipe dans le futur rapproché à moyen terme, sur les flancs, sur les ailes. Et est-ce que tu vois Joshua Roy, avec ce qu'il démontre depuis qu'on l'utilise avec le grand club, tu penses-tu qu'eux autres, quand ils font des projections, puis je comprends qu'il y a encore des croûtes à manger, mais tu penses-tu que c'est un gars qui voit dans le portrait là pour plusieurs années avec le Canadien, sans savoir exactement dans quelle chaise il va tomber, là?
Oui, moi je suis convaincu qu'il y a. Premièrement, il y a des atomes crochus dans sa façon de jouer avec la philosophie de l'entraîneur actuel. C'est un gars que. Tu sais, Martin Saint-Louis aime les joueurs intelligents avec la rondelle, qui sont capables de prendre de l'initiative, mais des bonnes initiatives, de prendre des bonnes décisions, d'avoir une bonne lecture, d'être capable de gérer ce qu'il y a devant lui, tu sais, de prendre ce que la game te donne. Bien, Joshua, il est bon dans ça. Donc, moi, pour moi, c'est un gars qui a le potentiel de jouer deux premières lignes. Peut-être pas sur le premier trio, mais je te dirais sur un deuxième trio, donc un top six. Moi, je pense qu'il y a ce potentiel-là. Je regarde ses chiffres actuellement versus le temps de jeu qu'il a. Il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Maintenant, jusqu'où ça va aller, il va avoir aussi le jumelage. Parce que lui, il a besoin de joueurs très actifs autour de lui. Ce n'est pas un patineur qui est explosif. Il a besoin de gars qui sont premiers sur la rondelle. Pour que lui puisse se servir de son intelligence, peut-être le deuxième, mais ramasser les un petit peu passer derrière celui qui va être le premier à mettre la pression sur l'adversaire. Et, tu sais, Slavkovski fait ça sur le premier trio. Joshua ne fera pas ça sur un trio. Lui, il va être le gars derrière qui prend une lecture de jeu. C'est très important dans le jumelage. Tu sais, moi, je trouve que ça a une valeur. Est-ce que ça va être avec Kirby Dach? J'aimerais ça. Mais en tout cas, je suis curieux de voir si on fait cette expérience-là, qu'est-ce que ça pourrait donner?
Avec un gars qui peut contrôler la rondelle comme Kirby Dach, j'avoue que c'est tentant. Tu dis ça de même, là, puis j'y avais pas pensé, mais ça pourrait. En tout cas, c'est certainement une expérience qu'on va tenter au camp d'entraînement dans quelques mois d'ici, assurément. Mmh. Une petite vite avant d'aller aux transactions, parce qu'il y en a une d'ailleurs qui vient d'être annoncée pendant qu'on se parle, Danny. Mais je voulais te demander, par rapport à ce que Martin Saint-Louis disait sur RHP, tu penses-tu que ça vaudrait la peine? Puis c'est un autre compliment indirect quand il dit que il est sûr que s'il s'y mettait, il pourrait devenir un bon joueur de centre par rapport à la maîtrise des mises en jeu, parce que déjà, sur la glace, à part les mises en jeu, il est capable d'occuper cette fonction-là. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'on va tenter de développer avec Raphaël?
Ben, parce que Raphaël a définitivement des enjeux de patinage. Pour un ailier, lui, c'est la même chose. Il pourrait jouer au centre parce qu'il a le comportement d'un joueur de centre. C'est un joueur qui est très engagé en défensive. C'est souvent le premier joueur dans le fond du territoire. Il est souvent en train de venir prêter main forte aux défenseurs, même si c'est un ailier là. Il joue comme un joueur de centre. Tu sais, donc moi je rejoins à 100% l'entraîneur. Maintenant les mises en jeu puis tout ça, ça c'est un autre. On dirait comme le gars, c'est un autre débat. Là. Ça,
oui.
C'est un apprentissage. Dans la Ligue nationale, c'est vraiment des habiletés qui sont très importantes. C'est pas évident d'avoir ça. Il faut les développer, il faut travailler là-dessus. Écoute, il y a des gens, tu sais, on le connaît, là, Yannick Perrault s'est spécialisé dans ça, dans la Ligue nationale. Il a eu une carrière en étant une référence. Puis encore aujourd'hui, il travaille avec des joueurs professionnels. Donc peut-être que c'est une alternative que le Canadien peut regarder d'envoyer de ce genre de joueurs-là. Dire, regarde, nous, on veut avoir de la polyvalence. On aimerait ça qu'on ait quelques alliés dans notre organisation qui puissent
dépanner,
être vraiment à l'aise pour prendre des mises en jeu. Puis moi, je pense que c'est vraiment une corde que Raphaël devrait avoir à son arc. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'il doit avoir dans son arsenal parce que c'est un joueur polyvalent. C'est un joueur de soutien de qualité, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur dynamique. Donc, il y a toutes ces qualités-là. C'est le frein, la barrière pour lui, c'est vraiment bon, le physique, évidemment, la vitesse de patinage, évidemment, qui le force à compenser avec autre chose. Et comme c'est un joueur intelligent, tout ça, moi, s'il était capable d'ajouter ça dans son coffre d'outils, c'est clair que c'est un avantage pour lui.
Il n'y a aucun doute. Transaction maintenant, ça déboule pas à peu près, Danny, là.
Ouais.
Je venais de raccrocher avec Dominique Ducharme pour commenter la question d'Anthony Manta. Puis Noah Hanifin vient d'être envoyé à Vegas par les Flames de Calgary. Donc, Vegas, là, c'est toute une prise. C'est tout un joueur. C'est un choix de première ronde. Cinquième au total, son année en 2015, Hanifin.
Oui, puis tu sais, c'est eux autres, là, ce que je trouve, Vegas sont très agressifs. Après Manta, c'est Hanifin, mais Hanifin, il va amener une dimension extrêmement importante. Eux autres, ils aiment des gros défenseurs. Vegas, ils aiment mettre beaucoup de pression, garder la rondelle à l'extérieur, forcer les jeux à faible probabilité. Puis après ça, là, c'est les défenseurs qui bagarrent pour les rondelles. C'est les défenseurs qui récupèrent ces rondelles-là. Honnêtement, là, quand tu regardes la brigade défensive de cette formation-là, ce sont tous des gars format géant. Et de bons patineurs. Donc, ils couvrent du territoire. C'est difficile de récupérer des rondelles en enclave contre eux. Manta, avec le départ forcé, là, avec l'absence de Stone, c'est sûr que lui, il devient un joueur important. Il amène une deuxième unité, un avantage numérique, il amène de la profondeur, des habiletés de marqueur évidentes. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant. C'est deux grosses pointures là, qui s'amènent à Vegas, ça les place avantageusement dans le contexte.
Comment accueilles-tu, comment t'interprètes la transaction? C'est un contre un, pas de choix, rien. Là, c'est vraiment un joueur contre un joueur. Casey Middlestat, joueur de centre des Sabres de Buffalo, et Bowen Byram, défenseur de l'Avalanche Colorado. Ben, donc, Byram à Buffalo et Middlestat au Colorado. Les Sabres là, qui sont en reconstruction depuis 12-13 ans. C'est un gars, mais semble, sur qui il bâtissait, autour de qui il bâtissait. Middlestat, es-tu surpris?
Ben, il y a une certaine surprise parce que Middlestat, c'est un mal-aimé, hein. Ça a pris du temps. Lui, il a passé plusieurs années dans la Ligue américaine. Il a fait la navette entre les deux. C'était cette année c'était l'émergence de Middlestat, mais c'est sa dernière année de contrat. Il va tomber à l'autonomie après cette année. Donc, et Colorado avait un vide à la position de centre. Et eux, Colorado, là, tu sais, la place où il y avait plus de monde, c'est en arrière. Et lorsque tu te débarrasses d'un gars comme Bowen Barron, tu te débarrasses d'un défenseur offensif, un gars qui a vraiment du potentiel, qui a eu des problèmes avec les blessures, tout ça. C'est pas arrivé à échéance encore. Puis il est derrière quand même il est loin derrière. Tu sais, je veux dire, quand il y a trois défenseurs devant lui. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette transaction-là, c'est que eux autres, là, à Buffalo, Krebs commence à jouer du hockey. Ils ont Cousins déjà. Ils ont également le Thompson qu'ils ont décidé, qu'ils ont décidé de placer au centre. Donc, leur ligne de centre, mettons, pour l'an prochain, Mario, c'est déjà réglé.
Ils pouvaient se le permettre. Puis, ils ont plus d'infos qu'on peut en avoir sur le gars. Fait que quand tu décides de te séparer d'un joueur, j'imagine que tu as des raisons, là.
Ben oui, puis c'est un groupe qui a grandi ensemble.
Et Byron, il reste une année de contrat aussi, Danny. Fait qu'eux autres, ils l'ont au moins pour l'an prochain. Ouais. Possibilité de s'entendre à long terme ouais. aussi.
Puis tu sais, c'est tous des gars qui ont participé au programme national. C'est un groupe quand même générationnel. Là, ces années-là. Faut pas oublier que actuellement, il y a une très grande déception à Buffalo. C'est Jacob Bryson. Lui là, c'était supposé, tu sais, c'est un défenseur de petite stature. C'était supposé être un gars offensif. Ça tient pas la route. Lui arrive à échéance. Là, il va être joueur autonome avec restriction. C'est sûr que lui, avec l'arrivée de Barron, lui, il disparaît. C'est un gars qui va quitter l'organisation. Donc, tu vois qu'il y a quand même des pièces du casse-tête. Rick Johnson aussi qui vieillit.
Oui.
Ça a rendu à 34 ans. Donc, ils ont des enjeux. Il faut continuer de bâtir leur défensive. Fait que moi, je vois à l'intérieur de ça qu'en faisant cette transaction-là, ils font un peu ce que le Canadien va faire, mais à l'envers. Eux, ils servent, ils ont beaucoup d'attaquants. Il y avait un gars qui était à échéance, qui ne garderont pas, qui n'est pas dans leur plan. Mittelstadt s'en va. Ils vont chercher un défenseur qui va venir bonifier la qualité de leur défensive qui est déjà vraiment là. je le dis très candidement, là, regardez autour de vous autres. Là, dans un an encore, là, les Buffalo vont avoir la meilleure défensive dans l'Est. Là. C'est la meilleure brigade défensive.
Fait que c'est sur le bord d'aboutir, Danny, parce que quand t'as une bonne défensive, là, t'es en business, là.
Ben oui. Tu sais, t'as Power, t'as Dahlin, t'as Samuelson, puis là, tu viens de rajouter ce gars-là. Écoute, c'est vraiment une équipe. Puis là, avec l'émergence devant le filet, là, je pense que Buffalo va commencer à sortir de sa torpeur. Puis, je fais attention quand je le dis, parce que ça fait 2 ans que je le dis.
Ben, tu sais quoi, je pensais au regretté Michel Noël, alias le capitaine Bonhomme, j'avais envie de te dire, lui, c'était les sceptiques seront confondus, du, mais moi, j'étais pour te dire, ils sont du, les cendres de Buffalo, pour que ça lève. Et peut-être un dernier commentaire, Danny, sur l'acquisition par les Panthers de la Floride de Tarasenko, donc marqueur recherché.
Ben, écoute, Tarasenko, là, c'est un gars d'expérience, OK? Donc, lui, là, il a gagné la Coupe Stanley avec Saint-Louis. C'est sûr que depuis ce temps-là, il est peut-être plus le joueur au même niveau qu'il a été, mais moi, je regarde, là, fondamentalement, ce gars-là, quand tu y penses, tu sais, je veux dire, il va s'amener là-bas, il va t'amener une deuxième unité en avantage numérique. L'autre soir, on était en Floride, je disais à Martin, puis on l'a partagé avec nos auditeurs. Les Panthers ont 54 buts en avantage numérique, il y en a 41 qui ont été marqués par la même unité. Fait qu'à un moment donné, faut quand même qu'il y ait un petit peu plus de profondeur si tu prends 2 unités en avantage numérique. Alors, Tarasenko va venir faire un peu ce que Anthony Mantha va faire avec Vegas.
Bon
il va
point.
Amener cette profondeur-là, il va amener. Puis lui, en plus, il a gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est un joueur qui a un ascendant. Tu sais, puis oui, c'est un Russe. Là. Des fois, tu te dis, bah, mais tu sais, en Floride, là, le gardien de but, c'est un Russe aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y a des.
Il y en a des bons Russes, Danny. Il y en a des
ben
bons.
Oui, hein? Oui. Il y a du bon partout.
Exactement. C'est une bonne conclusion, Danny. Un gros merci. Et puis, une bonne soirée. On te retrouve demain avec Martin, bien sûr, en direct de la Caroline, le Canadien contre les Hurricanes.
Avec plaisir, Mario.
Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était notre analyste, Danny Dubé.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.